Nous avons déjà vu toutes les planètes du système solaire que nos ancêtres de l'Antiquité connaissaient. Les planètes que nous allons maintenant découvrir sont des planètes tellement éloignées qu'il a fallu attendre 1781 pour que la première d'entre elles soit découverte. Cela veut dire qu'il aura fallu un siècle et demi après l'observation de satellites autour de Jupiter, pour que la septième planète du système solaire, George, soit découverte. Car George est si éloigné, à 19,2 unités astronomiques, que sa période de révolution est de 84 ans environ. Si la Terre est la planète dont la révolution marque nos anniversaires, une révolution de George marque alors une vie déjà bien longue. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette planète a mis autant de temps à être découverte. Elle se déplace extrêmement lentement dans notre ciel. Or, on l'a vu, c'est comme cela que l'on distingue une étoile d'une planète. Par cette position changeante par rapport aux étoiles. George a été découvert par accident en 1781 donc, par William Herschel, un astronome amateur britannique qui cherchait à identifier de nouvelles comètes. Il a remarqué un objet qui semblait bouger lentement par rapport aux étoiles environnantes et a finalement réalisé qu'il s'agissait d'une nouvelle planète. Mais cela ne veut pas dire que la planète George a été vue pour la première fois en 1781, non. On a des traces de son existence, en tout cas on suppose que c'est bien George, au vu de sa position indiquée, dans des cartes du ciel plus d'un siècle avant notre ère, sur une carte créée par le grec Hipparque, elle-même reprise par Ptolémée. Elle dispose d'une étoile qui ne semble correspondre à aucune observable de nos jours, et qui correspondrait à la position de George à l'époque. Parlons de son appellation maintenant, parce qu'une planète qui s'appelle George, je suis certain que tu n'en connais pas. Et il y a une raison à cela. Neville Maskelyne, astronome britannique lui aussi, propose à William Herschel de choisir le nom de la planète, ce droit lui revenant en tant que découvreur. Herschel alors décide de nommer l'objet Georgium Sidus, ce qui signifie l'étoile de George, ou la planète géorgienne. Cela en l'honneur de son nouveau mécène, le roi d'Angleterre de l'époque, George III. Il explique cette décision en déclarant que, dans l'Antiquité, les planètes étaient nommées d'après des noms des divinités de leur époque. Et que dans l'ère actuelle, il ne serait guère admissible d'avoir recours à des méthodes archaïques pour nommer ce nouveau corps céleste. Aussi, l'important pour le désigner est de savoir par son nom quand il a été découvert. Le nom de Georgium Sidus se présente donc comme une appellation permettant de fournir l'information du pays et l'époque quand elle a été découverte, grâce au nom du souverain. Cependant, le nom proposé par Herschel, jugé un peu politique et assez anglo-centré, n'est pas populaire en dehors de la Grande-Bretagne. Et des alternatives sont rapidement proposées. L'astronome français Jérôme Lalande suggère par exemple que la planète soit nommée Herschel, en l'honneur de son découvreur. Cela aurait du sens, comme pour les plus gros satellites de Jupiter, que l'on nomme ensemble les satellites galiléens. L'astronome suédois, Erik Prosperin, propose le nom de Neptune, ce qui est alors soutenu par d'autres astronomes. Dès 1780, année de la découverte de cette nouvelle planète, Johann Bode propose déjà Uranus. Comme tu le sais, la version latinisée du dieu grec du ciel, Uranos. Bode fait valoir que le nom devrait suivre la mythologie, afin de ne pas se démarquer de ceux des autres planètes. Et qu'Uranus est un nom approprié, en tant que père de la première génération des titans. Il note aussi l'élégance du nom, en ce que, tout comme Saturne était le père de Jupiter, la nouvelle planète devrait être nommée d'après le père de Saturne. Finalement, la suggestion de Bode devient la plus largement utilisée. Et elle est reconnue universelle en 1850, lorsque le HM Nautical Almanac Office, qui rédige au Royaume-Uni les cartes du ciel, encore aujourd'hui, dernier à toujours utiliser Georgium Sidus, délaisse finalement le nom proposé par Herschel au profit d'Uranus. Uranus possède une variété de traductions dans d'autres langues. Par exemple, en chinois, japonais, coréen et vietnamien, son nom est littéralement traduit par « étoile du roi du ciel ». En hawaïen, son nom est « Ele'ekala », soit le nom, dans ce langage, de son découvreur Herschel. Les deux premières lunes d'Uranus furent découvertes 6 ans après la planète, en 1787. Mais elles ne reçurent pas de nom avant 1852. Un an après que 2 lunes supplémentaires eurent été découvertes. C'est John Herschel, fils de William, le découvreur d'Uranus, qui a eu la responsabilité de les baptiser. Pour continuer dans la problématique des dénominations controversées, John Herschel ne choisit pas les noms des lunes dans la mythologie grecque, comme c'était souvent le cas. Et ce, malgré que depuis 2 ans déjà, l'appellation d'Uranus était devenue universelle. Il décida de choisir les noms parmi les esprits magiques de la littérature anglaise. Les fées Oberon et Titania dans Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et les sylphes Ariel et Umbrel dans La boucle des cheveux enlevés d'Alexander Pope. Ou un esprit dans La tempête de Shakespeare. John Herschel aurait estimé en effet qu'il était logique qu'Uranus, dieu du ciel et de l'air, soit accompagné d'esprits de l'air. Décidément, dans cette famille, on aime déroger aux règles en place. Les noms des satellites découverts au XXe siècle ne suivent pas le thème des esprits de l'air. À 2 exceptions, Puck et Mab. Les noms sont désormais choisis parmi les personnages des œuvres déjà utilisées pour d'autres satellites par Herschel. Miranda, découverte en 1949, fut nommée par son découvreur Gérard Kuiper, d'après un personnage de la Tempête de Shakespeare. La pratique actuelle de l'Union Astronomique Internationale consiste à tirer les noms des satellites des personnages des pièces de Shakespeare. Seuls Ariel, Umbrelle et Belinda sont des noms issus de la pièce « La boucle de cheveux enlevée ». Tous les autres ont pour origine des œuvres de Shakespeare. À l'origine, toutes les lunes extérieures devaient leur nom à une seule et unique pièce, la Tempête. Cependant, cette tendance s'est arrêtée car la lune Margaret est nommée d'après Beaucoup de bruit pour rien, toujours une pièce de Shakespeare. Mais je reparlerai rapidement des satellites d'Uranus plus tard. Concentrons-nous sur la planète tout d'abord. Ce qui saute aux yeux en premier, c'est forcément sa couleur bleu-vert. Due à la composition de son atmosphère, elle-même ponctuée parfois de taches blanches. La Terre n'est donc pas la seule planète de notre système solaire à être une planète bleue. Uranus est probablement une des planètes les plus intrigantes de notre système solaire. Et elle a aussi une part de mystère. Mais pas seulement parce que nous avons moins de données que les autres planètes. Elle a des caractéristiques bien particulières. Pour certaines même inédites, jusqu'à présent dans les planètes que nous avons visitées, et pour d'autres, uniques dans tout le système solaire. Elle est, comme on l'a vu, la septième planète à partir du Soleil. Elle est, après Jupiter et Saturne, la troisième la plus grande en taille. D'une taille certes conséquente, elle reste quand même modeste, face aux géantes gazeuses que nous avons vues. Environ 4 Terres de diamètre seulement, comparée à des tailles de l'ordre de 10 Terres pour Saturne et Jupiter. Comme je l'ai dit, sa distance avec le Soleil est de 19,2 unités astronomiques. Cela correspond à notre échelle réduite, où le Soleil est un ballon de basket, à un demi-kilomètre, 10 piscines olympiques. Même à cette échelle ridicule, tu dois commencer à avoir du mal à visualiser intuitivement à quoi cela peut correspondre. C'est entre 800 et 900 pas. C'est loin. C'est tellement loin. Alors réduisons encore plus l'échelle. On va la diviser par 10. Si le Soleil était désormais de 2,5 cm, de la taille d'une pièce de 2 euros, la Terre serait à 2,5 mètres environ, la hauteur sous plafond de la majorité des maisons. Elle aurait un diamètre qui correspondrait à la plus fine mine de porte-mine disponible sur le marché. Jupiter serait à 14 mètres et serait de la taille d'une tête d'épingle de 2,5 mm de diamètre. Saturne serait à 25 mètres, soit la taille de la majorité des piscines municipales, et Uranus serait à un peu plus de 50 mètres, soit le double, ou la longueur d'une piscine olympique. Uranus est plus éloigné de Saturne que Saturne ne l'est du Soleil. Entre elles existe donc un vide interplanétaire de 9,7 unités astronomiques. Une distance absolument inimaginable. Sur notre dernière échelle réduite, tu l'auras intuité, cela fait plus de 25 mètres. À cette distance du Soleil, elle reçoit près de 370 fois moins de lumière que la Terre. Autant te dire que la température sur Uranus est très froide, entre moins 226 et moins 197 degrés Celsius. Mais comme Saturne et Jupiter, son cœur ne devrait pas permettre une température aussi basse. Il devrait réchauffer la planète. C'est donc beaucoup trop froid. Pour rappel, le zéro absolu, la température en dessous de laquelle il est impossible de baisser, est de -273,14 degrés. L'univers lui-même n'atteint pas cette température. On estime que la température du vide interstellaire est de -270,45 degrés. On est donc assez proche de cette température sur Uranus. La différence entre les températures de l'univers et d'Uranus sont entre 40 et 70 degrés. Ce n'est pas à des magnitudes très éloignées de la différence qu'il y a entre la température lors d'une canicule et celle lors d'une vague de froid dans une ville au climat plutôt continental, comme Toulouse par exemple, qui peut dans l'année avoir une amplitude de plus de 40 degrés. Uranus n'est pas considéré comme une géante gazeuse. C'est une géante de glace. Car comme Neptune, que nous verrons plus tard, et contrairement à Jupiter et Saturne, ces planètes ne sont pas composées d'hydrogène et d'hélium, mais plutôt d'éléments volatiles, tels que le méthane, l'ammoniac, qui lui donne sa couleur, et l'eau. Ces matériaux sont appelés glaces en astrophysique, quel que soit leur état, qu'ils soient solides, liquides ou autres. N'imagine donc pas des planètes complètement solides. Cela reste du gaz. Enfin, pas tout à fait. Comme les autres planètes géantes du système solaire, Uranus ne possède pas à proprement parler de surface solide. Mais comme pour Saturne, elle est composée en son centre d'un noyau rocheux qui lui est solide. Ce cœur est recouvert d'une couche liquide dense d'eau et d'ammoniac. Au-dessus de ces liquides, l'atmosphère est surtout composée d'hydrogène et d'hélium, comme ses cousines gazeuses. Alors que l'on orbite autour d'Uranus, son atmosphère semblerait assez calme. Mais ce n'est qu'une impression. Les vents qui y soufflent sont parmi les plus puissants du système solaire, pouvant atteindre 800 km/h. Mais contrairement à ce que l'on a vu précédemment, ce ne sont pas des vents localisés dans des tempêtes, mais bien les vents moyens, les vents habituels sur Uranus. Cela est dû à un différentiel de vitesse important entre les différentes couches. L'intérieur de la planète fait une rotation en 17 heures, mais la haute atmosphère le fait en 3 heures de moins. Mais comme il y a très peu de nuages qui sont visibles dans cette atmosphère bleutée, il y a peu d'éléments qui nous permettent de nous en rendre compte. D'ailleurs, une calotte blanche s'est formée depuis quelques années. On suppose qu'il pourrait s'agir d'un important nuage de méthane. C'est actuellement le milieu de l'été au pôle nord d'Uranus. Et les scientifiques pensent que cela est la cause de la formation de cette calotte gazeuse. Les chercheurs auraient, lors de l'analyse de l'atmosphère d'Uranus, trouvé du sulfure d'hydrogène en grande quantité dans l'atmosphère de la géante glacée. Ce gaz présent sur Terre présente une odeur caractéristique d'œuf pourri. On le retrouve dans les émanations des volcans, des sources chaudes, ou du gaz naturel. Mais rassure-toi, si tu devais te retrouver sur Uranus, le froid et la composition de son atmosphère auraient raison de toi bien avant que tu puisses en sentir l'odeur nauséabonde. Mais derrière cette odeur repoussante, Uranus cache peut-être un trésor. Selon certaines théories, il pourrait exister des océans de diamants, comme pour Saturne, dans les couches profondes d'Uranus. Selon d'autres théories, un océan liquide pourrait potentiellement habiter une vie qui tirerait de ses gaz hydrocarbonés les nutriments dont elle aurait besoin, à la manière d'une méthanogénèse. mais avec le peu de données dont nous disposons, rien n'est moins certain. Mais ce dont on est sûr, et ce qui rend Uranus vraiment unique, c'est l'inclinaison de son axe de rotation. À un angle de 98 degrés par rapport à son plan orbital. 90 degrés, c'est un angle droit, je te le rappelle. Si cela ne t'interpelle pas, sache que cela signifie que ses pôles sont quasiment situés sur le plan de son orbite autour du Soleil. Lors de l'été dans l'hémisphère nord, c'est en réalité tout l'hémisphère nord qui est éclairé. L'hémisphère sud, lui, est dans la nuit. Et lors des équinoxes, c'est un éclairage semblable à celui de la Terre pendant un équinoxe, mais avec la planète qui tourne à l'horizontale par rapport au plan de l'écliptique, au lieu d'être plutôt verticale comme sur la Terre. Cette inclinaison extrême donne lieu à des saisons très longues et bizarres sur Uranus, avec des périodes avec majoritairement du Soleil pendant 42 ans, suivi majoritairement de la nuit pendant 42 autres années. Au final, la même logique d'ensoleillement que nos pôles, mais appliquée à toute la surface de la planète. Cela nous amène à penser que nous sommes chanceux de ne pas être dans cette orientation de rotation, car elle n'aurait probablement pas été aussi propice à la vie que la nôtre. Outre les caractéristiques mentionnées précédemment, Uranus est également unique pour son champ magnétique. Il est très différent de celui des autres planètes géantes du système solaire. Son champ magnétique est incliné de plus de 60 degrés par rapport à son axe de rotation, ce qui signifie qu'il est presque parallèle à son plan orbital. Cela suggère que l'origine de son champ magnétique est différente de celle des autres planètes géantes. Mais alors pourquoi Uranus est penché avec un angle si important quand aucune autre planète de notre système n'est dans cette situation? Le scénario, tu l'imagines bien, est celui d'une collision immense. Il semblerait que ce soit souvent la raison des inclinaisons. Les simulations montrent que, sans leur perturbation, les planètes auraient tendance à tourner sur un axe perpendiculaire au plan de leur orbite. Il faut donc bien une raison pour que cette tendance soit perturbée. Et au vu de l'inclinaison de 98 degrés, Uranus a dû subir un terrible choc. On estime qu'il a eu lieu il y a 4 milliards d'années, au tout début de la formation du système solaire. Voilà ce que l'on imagine à l'heure actuelle. Percutant son pôle nord à 20 km par seconde, une protoplanète de glace, d'une masse deux fois supérieure à celle de la Terre, n'aurait mis qu'une trentaine d'heures à coucher littéralement la planète géante sur son orbite. Puis elle aurait été totalement déchiquetée et assimilée par Uranus, formant une couche de glace entre son manteau et sa profonde atmosphère. Une couche isolante qui, depuis lors, empêche la matière chaude du cœur de remonter à la surface. Ce qui répond du même coup à un autre des mystères d'Uranus. Pourquoi elle a l'atmosphère la plus froide du système solaire? Le fer initialement contenu dans le cœur de cette planète en collision avec Uranus pourrait aussi contribuer à expliquer l'angle atypique du champ magnétique. Mais pour le confirmer, il faudra encore améliorer la résolution des simulations et avoir de nouvelles observations, ou en tout cas des données supplémentaires. Il reste encore à vérifier notamment si la matière restée en orbite après le choc pourrait s'être condensée pour donner naissance aux 27 satellites d'Uranus, comme on pense que cela s'est produit pour la Terre et la Lune. D'ailleurs, parlons des lunes d'Uranus. Pas toutes, évidemment, mais les plus importantes, les plus intéressantes et les plus prometteuses. les lunes d'Uranus sont très différentes les unes des autres, avec des tailles et des caractéristiques géologiques très variées. Grâce à l'analyse des données rapportées par la sonde Voyager, des chercheurs se sont penchés sur les 5 plus grosses lunes d'Uranus et ont évalué la possibilité d'un océan sous leur croûte glacée. Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda ont ainsi été scrutés. Et à la surprise générale, 4 d'entre elles pourraient bien posséder des océans. Et surtout Titania, la plus grande, ayant un diamètre de 1580 km, 2 fois plus petit que celui d'Europe. Selon l'étude, si l'un de ces corps recèle un océan, son épaisseur ne dépassera pas 50 km, voire même 30 km pour Ariel et Umbriel. Une estimation faite grâce à des modélisations des structures internes de chaque satellite, basée à la fois sur les connaissances des autres lunes connues et sur les données de Voyager 2 et des observations faites depuis la Terre. Voilà pourquoi il est important d'étudier tous les corps de notre système. Certaines observations permettent de faire des théories que l'on peut appliquer au-delà du seul corps observé. En revanche, leur conclusion pour Miranda, la plus petite, est peu encourageante. Si la lune uranienne avait abrité un océan, il serait désormais gelé. En effet, les modélisations montrent qu'elle perd de la chaleur trop rapidement, à cause de sa surface fragmentée, et qu'aucun phénomène ne permettrait de la chauffer suffisamment. En revanche, elle a un intérêt particulier. Elle présente un paysage chaotique, parsemé de falaises et de canyons, qui défie notre compréhension actuelle des phénomènes géologiques. Pour les autres, un océan reste possible. La porosité évaluée par les chercheurs se révèle bien plus faible, signifiant que ces satellites perdent bien moins de chaleur. Et la glace aurait enfermé la surface de la Lune, lui permettant de garder sa chaleur interne, à la manière d'un thermos géant, ou pour être plus précis, d'un igloo capable de garder la chaleur. Mais les plus petites lunes de ce groupe créent néanmoins très peu de chaleur, donc le doute persiste. Pour Titania et Oberon, les 2 plus gros satellites d'Uranus, le bilan est beaucoup plus positif. Étant massifs, les effets de marée, dus à la planète qu'ils orbitent, permettent un chauffage plus intense. Ils pourraient ainsi abriter un océan plus épais, et surtout plus chaud, et donc potentiellement habité. Des observations récentes au télescope des lunes uraniennes ont détecté sur leur surface de la glace de dioxyde de carbone, le CO2, et peut-être des espèces contenant de l'ammoniac et de l'ammonium. L'ammonium, c'est de l'ammoniac avec un atome d'hydrogène supplémentaire. Ces éléments ayant comme particularité d'avoir des propriétés antigèles. En termes d'exploration spatiale, Uranus n'a été visité qu'une seule fois par la sonde Voyager 2, en 1986. Des propositions de missions futures ont été faites pour explorer Uranus de plus près, notamment en envoyant des sondes pour étudier ses lunes potentiellement habitables et pour en apprendre en général davantage sur son atmosphère et son champ magnétique. Le système d'anneaux autour d'Uranus est mentionné pour la première fois en 1789, dans les notes de William Herschel, peu après la découverte de la planète elle-même. L'astronome y consigne ses observations de la planète, soupçonnant l'existence d'un anneau. Herschel dessine alors un petit schéma de l'anneau et note qu'il tire un peu sur le rouge. La véracité de l'observation initiale des anneaux par Herschel, que plusieurs générations d'astronomes ne sont pas parvenus à confirmer par la suite, est ainsi mise en doute par la communauté scientifique. Certains pensent que Herschel ne pouvait pas avoir découvert les anneaux, compte tenu des limitations des instruments de l'époque. Ceux qui créditent Herschel de cette découverte avancent comme argument que l'astronome a donné des descriptions exactes de l'anneau Epsilon, de sa taille par rapport à celle d'Uranus, de ses changements d'aspect le long de l'arc d'orbite observé, et de sa couleur. La découverte ou redécouverte des anneaux d'Uranus est réalisée par hasard le 10 mars 1977 par des astronomes qui veulent utiliser l'occultation d'une étoile par Uranus pour étudier l'atmosphère de cette planète. Or, l'analyse de leurs observations met en évidence que l'étoile a été brièvement masquée, à 5 reprises, avant et après l'occultation par Uranus. Les 3 astronomes concluent à la présence d'un système d'anneaux étroits. Dans leurs articles, ils désignent les 5 occultations observées par les 5 premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, sigma et epsilon. Ces désignations sont désormais utilisées par la suite pour nommer les anneaux. Ce n'est pas très poétique, mais pas moins que pour Saturne au final. Mais ces anneaux sont en réalité plus nombreux et divisés en 3 groupes. 9 anneaux principaux étroits, ceux qui ont été observés précédemment, 2 anneaux de poussière et 2 anneaux externes, découverts par les observations plus récentes, dont Voyager 2 et Hubble. Les anneaux d'Uranus sont constitués principalement de particules macroscopiques, donc plus grosses que de la poussière, composées de matériaux plutôt sombres, et renferment en réalité peu de poussière. Celle-ci étant localisée surtout dans les anneaux de poussière, comme leur nom l'indique. Ces anneaux orbitent autour de la planète, au niveau de son équateur, et donc, comme Uranus, incliné de manière atypique par rapport aux autres planètes. Il est indéniable que la planète Uranus est l'un des joyaux de notre système solaire. Elle mérite sans aucun doute une attention beaucoup plus soutenue de la part de la communauté scientifique. Malgré les nombreux défis posés par sa distance par rapport à la Terre, Uranus offre une richesse de découvertes potentielles. Et elle pourrait non seulement élargir notre compréhension de la formation et de l'évolution des planètes, mais également nous fournir des pistes pour trouver de la vie bien au-delà de ce que l'on imaginait initialement. Ses caractéristiques uniques, dont son axe de rotation presque perpendiculaire à son plan orbital, qui en fait une planète couchée, son atmosphère aussi si particulière avec ses vents violents et la présence de méthane qui crée des conditions atmosphériques uniques et des variations de température impressionnantes, tout cela et l'étude de ces phénomènes pourraient fournir des informations cruciales sur la dynamique atmosphérique et la formation des atmosphères planétaires en général. De plus, la planète géante de glace est également le théâtre de phénomènes magnétiques mystérieux, dont l'origine n'est pas entièrement comprise. Comprendre ces champs magnétiques et leurs interactions avec l'ensemble du système d'Uranus pourrait contribuer à éclairer les mécanismes de génération des champs magnétiques planétaires en général, ce qui aurait des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution des planètes. Alors que nous en sommes à notre 3e planète composée principalement de gaz, nous aurions pu penser qu'elles se ressemblent toutes. Et pourtant, nous quittons une planète tout autant unique que les précédentes. difficile de ne pas être un peu chauvin. Fier de vivre au sein d'un système stellaire composé d'objets si uniques. Chacun représentant un joyau, orbitant autour de cette sphère en fusion que l'on associe à la vie. Mais qui pourrait être l'une des multiples sources d'énergie d'autres formes de vie dans notre voisinage cosmique. Comment ne pas se surprendre alors ? À rêver des possibilités d'exoplanètes, quand notre système est si hétéroclite, et où les conditions propices à une présence hypothétique de vie sont aussi nombreuses. Neptune nous attend. Et après avoir découvert tant de petits détails uniques, lors de chacune de nos destinations, je suppose que tu as hâte de la rencontrer. Alors, éloignons-nous d'Uranus. Penchons-nous aussi la tête, en signe d'adieu et de respect, et partons désormais vers le dieu des mers et des océans.
So